Bonjour Jean-Marie Roy.
Bonjour.
Vous vouliez me dire quelque chose?
Non, je crois que c'était jusqu'au 28 avril.
28 avril, ben c'est encore mieux, dépêchez-vous quand même, excusez-moi. Jean-Marie Roy, on va parler évidemment de cette pièce, le bar de l'Oriental. Merci de nous faire l'amitié de venir en parler sur l'antenne de Radio Classique. Frédéric Mitterrand, vous avez nécessairement des choses à dire sur cet homme de culture, de cinéma, de littérature, de télévision. Et puis aussi parce qu'il a voulu vous rejoindre à l'Académie.
Oui, je l'ai bien connu, parce qu'il était très ami aussi de Gonzague Saint-Brice. Il avait créé le mouvement des nouveaux romantiques. Donc c'était une personnalité très intéressante, très déchirée, pleine de contradictions, comme tous les gens intéressants. Et en effet, il avait voulu venir à l'Académie. Il n'a pas insisté.
Mais il s'est présenté deux fois, me semble-t-il.
Oui, je crois qu'il s'est présenté qu'une fois, mais enfin bref, je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut, il faut quelquefois un peu forcer la porte. Et moi, vous voyez, je me suis présenté 5 fois. Alors, vous voyez.
Et Victor Hugo, 4 fois ou 5 fois?
5 fois, comme moi.
5 fois, Victor Hugo.
Pareil, je suis comme Victor Hugo. Mais vous savez, quand j'ai été élu, à la fin, on m'a dit, vous êtes heureux, enfin. J'ai dit, non, je suis inquiet. On m'a dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet? Je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac.
Frédéric Mitterrand, où le placer dans la galaxie culturelle française? Il y a comme ça des gens qui passent et on se dit, où sont-ils?
Eh bien, écoutez, il est, par ses curiosités, il est très français. Il avait énormément un spectre de curiosités immense. C'est à la fois le cinéma, la littérature, les confessions. Il avait écrit un livre de confessions.
La mauvaise vie.
La mauvaise vie.
Ça lui a valu d'ailleurs beaucoup de critiques.
Oui, parce qu'il était la charnière de deux mondes. Il était dans l'ancienne, disons, dans l'ancien monde de Gide où on pouvait avouer énormément de choses. Et puis, le monde contemporain qui est devenu beaucoup plus, de ce point de vue-là, plus moral. Mais je crois que c'est ce qui fait ça, la richesse de sa personnalité, c'était ses déchirements. À la fois, il était comme nous tous, épris de liberté et en même temps de reconnaissance. Voilà. Et quand on est épris de reconnaissance, forcément, vous savez, les institutions, il y a un abîme entre les institutions et la vie artistique.
Il a fini par être admis à l'Académie des Beaux-Arts, dans la section cinéma. Est-ce que vous pensez que s'il avait assisté, il aurait été admis à l'Académie française?
Oui, je crois.
Au bout de 4-5 tours,
bien
enfin
sûr,
5
bien
candidatures,
bien
c'est
sûr,
possible.
Au bout d'un certain... Vous savez, il y a des gens qui se sont présentés 10 fois, Fernand Grec, je crois que c'était 12 fois. Non, c'est pas... L'Académie, elle aime bien faire... Voilà, c'est comme une maîtresse difficile à atteindre. Vous savez, elle aime bien
se faire désirer.
Elle aime bien se faire désirer.
Mais c'est aussi un éloge de l'échec. La France n'aime pas l'échec, mais finalement l'Académie, une de nos plus vieilles institutions, valorise l'échec et dit « mais recommencez, vous êtes riche de vos échecs ».
Oui, elle veut que les gens la désirent vraiment. Voilà.
Le bar de l'Oriental, c'est la pièce qui se joue donc jusqu'au 28 avril au théâtre du Montparnasse. Pièce que vous avez écrite et qui met en scène des Français en Indochine. Ils ont chacun leur histoire, chacun un rapport particulier avec cette colonie. Mais quel est le lien qui vous unit à ce qu'on appelait autrefois donc l'Indochine, Jean-Marie Roy?
Ah, de multiples liens. Mais vous savez, ce qui m'a passionné dans l'Indochine, c'est à quel point c'était l'exemple de tous les déchirements français. Tous les déchirements français, toutes les contradictions françaises. Parce que c'est vraiment un pays qui nous aimait, un pays avec lequel nous étions faits pour nous entendre. Et vraiment, c'est là où on voit l'incohérence des politiques, l'incohérence meurtrière et l'incohérence du général de Gaulle, parce que il a été, c'est une des rares fois où il a été dans le en même temps. Et le en même temps, ça aboutit à la guerre, puisqu'il est à la fois, il était soutenu par les communistes, et en même temps, il était pour l'Empire. Donc, disons, je l'ai pris comme cadre, et j'ai essayé de mettre dans ce cadre de déchirement, un déchirement personnel, amoureux, avec une femme qui est une sorte de dame aux camélias des tropiques, si vous voulez, mais qui elle-même a vécu tous ces déchirements. Parce que il faut voir toutes les gens qui vivaient en Indochine. C'était un mélange extraordinaire, explosif, parce que vous aviez des gens qui vraiment aimaient l'Indochine, ont apporté énormément. Vous savez que ce sont les jésuites qui ont apporté l'alphabet latin en Indochine. Donc il y avait des liens culturels très très forts, puis il y a eu la guerre. Et il y a eu ces militaires qui étaient déchirés aussi, parce que vous savez, la Bollardière, c'est là où il a vu les premiers effets de la torture. Donc, le général Salan, tous ces généraux, je ne veux pas les condamner. Je ne veux pas condamner les militaires parce qu'ils ont tellement souffert. Et puis, ils ne savaient pas que toutes ces souffrances allaient se retrouver en Algérie.
Pour un romancier, pour un auteur dramatique que vous êtes, puisque c'est une pièce de théâtre, c'est formidable d'aller chercher dans une colonie finissante des trames qui se jouent entre des personnages qui sont eux-mêmes déchirés. C'est mieux que de les mettre dans un appartement au Quartier Latin.
Oui, parce que j'aime le dépaysement et j'aime la magie. J'aime le mystère. Et je dois dire, ce qui, vous savez, c'est le rôle des, pour moi, des artistes, des écrivains, c'est d'essayer de tirer de l'horreur, parce que c'est une horreur, une leçon et de réenchanter la vie. Je crois que les écrivains sont les créateurs de légendes. Et d'ailleurs, pas seulement moi, en l'occurrence sur l'Indochine, Lucien Bodard, que j'ai bien connu, Schindlerfer, Jacques Chancel, tous ces gens-là ont participé à ce mythe de l'Indochine, c'est-à-dire, avec leurs œuvres, essayer de donner du bonheur, une certaine jouissance sur quelque chose qui pourrait échapper comme antidote à l'horrible.
On a un peu oublié Dien Bien Phu. C'est les 70 ans de la chute cette année, si j'ai bonne mémoire, 1954-2024. Ça a été éclipsé par, évidemment, l'abandon de l'Algérie. Vous feriez une comparaison presque politico-sentimentale entre ces deux renoncements?
Je veux dire, c'est très différent, parce que la colonisation de l'Algérie était d'une nature très différente. Ce qui n'est pas différent, c'est ce sentiment que les gens avaient, qui vivaient là-bas, qui ont été vraiment, d'une façon, qui ont connu des tragédies épouvantables, dont on n'a pas mesuré peut-être le niveau. Eh bien, tous ces gens avait le sentiment d'être pris entre deux feux, dans une contradiction fondamentale, beaucoup plus pour l'Indochine que pour l'Algérie. Qu'est-ce qu'on avait été faire là-bas, à 11 000 kilomètres? Et vous savez que c'est Jules Ferry qui avait décidé, en disant que c'était le devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures.
Un homme de gauche.
Voilà, un homme de gauche. Et Clémenceau lui avait répondu, j'ai du mal à imaginer le cabaretier de Carpentras civilisé, le mandarin tonkinois. En effet, c'était absurde.
Ça, c'était un débat, mais la vocation de l'homme, c'est la curiosité, c'est d'aller voir ailleurs.
Oui, mais c'est pas d'asservir des gens.
Ah non, ça c'est autre chose.
À 11 000 kilomètres, avec une civilisation tout à fait extraordinaire. Donc, c'était une forme de crime qui a apporté certaines choses à l'Indochine, mais il fallait vraiment très rapidement abandonné, et ça, De Gaulle ne l'a pas fait.
Jean-Marie Roire est l'invité de la matinale de Radio Classique, notamment parce que la pièce de théâtre, Le Bar de l'Oriental, se joue jusqu'au 28 avril au Théâtre du Montparnasse. Vous êtes un peu comme Frédéric Mitterrand, vous aimez les crépuscules, vous aimez la nostalgie, vous aimez ce qui finit, Jean-Marie Roire.
Non, j'aime bien notre époque, vous savez.
Non, je n'ai pas dit que vous ne l'aimiez pas,
non,
mais je trouve que ce qui finit est quand même inspirant.
Ce que j'aime, c'est l'universel. Ce que j'aime, c'est vraiment... Et pour moi, l'art, sa vocation, et c'est pour ça que j'essaie dans ma pièce de théâtre qui est historique, qui se passe en effet à une certaine époque, mais de parler à tout le monde. Parce que moi, je crois que l'humain ne change jamais. Et le désespoir de ces gens qui vont être expatriés, qui vont perdre leur pays, ce qui était le cas en Indochine, ils sont subitement, ils aimaient ce pays, ils vont être obligés de le perdre à cause des incohérences, des sottises et de la bêtise des hommes politiques. Voilà, et ça, je trouve ça atroce à toutes les époques, et ça parle à toutes les époques.
Est-ce que la perte de l'Indochine, c'est une des premières colonies, sinon la première que la France perd, après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ça amorce le déclin occidental tel qu'on en parle aujourd'hui, ou ça n'a rien à voir?
Écoutez, déclin occidental, je dirais, c'est la fin des incohérences occidentales, puisque, franchement, les pays qui avaient proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui prônaient la liberté, comme la France, c'est le pays de la liberté, depuis 1315, depuis l'édit de Charles le Pieux, qui disait « le sol de France affranchit l'esclave qu'il touche ». Eh bien, pourquoi aller dans d'autres pays pour les exploiter et pour y maintenir une pression policière et militaire? Non, je crois que c'est une incohérence française. Mais la France est pleine d'incohérences. Nous sommes un pays tissé par les incohérences, avec un pays libre qui, en même temps, a essayé de servir d'autres pays. Mais attention, je ne jette pas la pierre à la France, parce que c'est un pays que je trouve absolument extraordinaire, justement, parce qu'il y a toujours un idéal qui surgit et qui domine.
Vous aimez la grandeur de la France, Jean-Marie Roire. J'ai lu quelque part que quand vous avez lu le mémorial de Sainte-Hélène, vous avez renoncé à vous suicider, vous aviez 18 ans. Est-ce que c'est vrai?
Non,
c'est une légende.
C'est une légende, mais il y a du vrai dans les légendes.
Mais vous aimez bien entretenir la légende.
Non, mais parce qu'il y a toujours du vrai dans les légendes. Et justement, c'est ça, moi je me considère comme tous les écrivains, tous les artistes, un créateur de légendes. Je crois que c'est important parce que c'est ce qui nous sauve de l'horreur de la réalité.
Quitte à vous inventer un peu.
Non, mais c'est un peu vrai parce que je veux pas vous raconter ma jeunesse, mon adolescence, mais j'étais désespéré. Et c'est vrai que la lecture du Mémorial de Sainte-Hélène m'a donné une source d'énergie extraordinaire. Et je me suis dit, la vie n'est pas fichue parce que j'étais trompé par ma petite amie, comme Napoléon. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est un modèle, c'est un exemple humain. Je ne dis pas que c'est un exemple politique, mais c'est un exemple humain extraordinaire.
Vous aimez la grandeur, Napoléon vous a inspiré. On parlait à l'instant du déclin de l'Occident. Vous avez beaucoup critiqué Emmanuel Macron quand il a créé la Cité internationale de la langue française. Vous avez dit on peut pas faire d'une langue qui évolue sans arrêt un musée. Est-ce que vous soutenez maintenant le président alors qu'il a des mots forts pour engager les Européens à la fermeté face à la Russie?
Non, je suis en désaccord sur tout avec le président Macron, qui est par ailleurs, je connais un peu, que je trouve un homme charmant, un homme très intelligent, mais il est dans l'incohérence. Il est dans l'incohérence et l'absence de vision. Et vraiment, je serai toujours, parce que j'ai cette expérience de la guerre d'Indochine, toujours contre les va-t-en guerre. Je trouve que la guerre, c'est l'échec le plus effroyable qui existe, et que des gens, et derrière eux, des complexes militaro-industriels, pousse à la guerre, je trouve ça absolument ignoble. La guerre, c'est la fin de l'humain. Et moi, mon patriotisme, c'est l'humain.
Jean-Marie Roire, on va se quitter avec une indiscrétion, on ne sait jamais. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, se verrait bien à l'Académie française dans le fauteuil de Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce qu'il a ses chances d'être admis au premier tour ou faudra-t-il qu'il se présente 5 ou 6 fois?
Alors, moi je crois qu'il a toutes ses chances, mais il ne devrait pas, je l'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire, se présenter au fauteuil de Valéry Giscard d'Estaing pour des raisons simples. C'est qu'il n'y a pas de dévolution à l'Académie, et surtout, on ne peut pas imaginer un adversaire politique faisant l'éloge d'un autre adversaire politique. Donc je pense qu'il a tout à fait sa place, mais à un autre fauteuil.
Jean-Marie Roire, le Bar de l'Oriental, c'est au Théâtre du Montparnasse jusqu'au 28 avril. Mise en scène par Claude Bénec, et puis La Comtesse Italienne, c'est votre dernier livre, est paru chez Gallimard, et c'est pour ça que je vous ai orienté vers Napoléon tout à l'heure et le Mémorial de Sainte-Hélène, puisqu'il est question de Napoléon dans ce dernier ouvrage. Jean-Marie Roire, merci.
Merci.
Radio Classique 8h20.